Aquí estamos,
la voix des judéo-espagnols, une émission préparée par Bella Lustig
et présentée par Liz Gutmann, con mucho placer y alegría.
Vinida buena, Bella.
Vinida buena, Liz.
Alors, bonne rentrée, merci d'être avec nous. Donc, une rentrée un peu sur des chapeaux de roue, parce qu'on va parler d'une thématique qui nous tient à cœur. Je te laisserai en parler dans quelques instants. Pour l'heure, Bella, quelques infos.
Eh bien, les activités de Aquí estamos, vous pouvez les retrouver évidemment sur le site et en nous appelant parce que elles sont assez réduites ce mois-ci. Vous aurez le détail le mois prochain. Cependant, il est important de parler de la fête de Jorja.
Ah oui,
Liz, on y était être. Parmi nous. Ça C'était a été super. Vraiment un plaisir, très émouvant d'ailleurs.
Très.
Nous étions assez nombreux. Un très bon buffet.
Assez nombreux, très nombreux, moi, je très trouve. On était serrés dans la salle, les gens étaient assis sur les marches et tout, c'était un peu la folie. Hein.
C'était très convivial et vraiment une grande joie pour tout le monde de se retrouver dans ce lieu qui est très, très beau, donc au Théâtre de l'Épée de Bois.
Et puis, on a très bien mangé.
Comme d'habitude, les borequitas, le raki, enfin, les filicas, toutes ces odeurs que nous avons dans les narines.
Ouais, exactement. Là, c'était très bon. Hein. On les a eu aussi dans l'estomac.
Alors donc, je vous rappelle tout de même le numéro d'Aquí estamos, le 06 98 52 15 15, ou bien vous allez sur notre site sepharad avec un F, info.org. Et puis évidemment, le Siété aussi va
faire sa rentrée.
Voilà, avec les cours de Daniel Farry, etc. Alors pour également, vous allez sur le site Alsiété, SYETE.com.
Voilà. Et puis, il y a ce gros événement, bloquer la date du 6 novembre, Muestros Desaparecidos, avec Alain de Toledo, qui sera prochainement notre invité, qui dirige ce projet. De quoi s'agit-il en deux mots, Bella ?
Eh bien, c'est un mémorial spécifique de tous les déportés judéo-espagnols. C'est vrai que, de toute façon, Alain et toute notre équipe a puisé dans le travail extraordinaire de Karsfeld, mais il manquait des noms et donc
manquait des noms judéo-espagnols. Donc en accord avec Serge Karsfeld,
tout à fait.
Alain a complété. Il va y avoir un gros événement à la salle Olympe de Gouges dans le 11e, le 6 novembre, avec des discours, des personnalités, beaucoup de personnalités. Il va y avoir également un gros spectacle avec un groupe qu'on adore toutes les deux
et qui vont venir spécialement de Turquie, Los Pacharos Sefaradis.
Voilà, et on a hâte de
les retrouver. Là, je crois qu'on va se régaler parce que c'est...
Voilà. Et si vous n'avez jamais chanté en judéo-espagnol, avec eux, c'est incontournable. On chante même quand on ne sait pas chanter. Même quand on ne connaît pas la langue, on chante. C'est vrai,
On est entraîné, tout à
voilà.
fait.
Voilà. Alors maintenant, tout de suite, on peut passer à notre invité ce matin, Monsieur Didier Long, pour « Mémoire juive de Corse », paru chez Le Mieux Éditeur. Didier Long, bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Didier Long. Bon, donc, nous allons parler de ce livre où il y a un travail remarquable. Mais vous avez surtout un parcours et un dessin assez...
Exceptionnel.
Exceptionnel, ça on peut le dire. Vous êtes né dans une famille qui n'est pas particulièrement religieuse, je crois.
Non, oui, tout à fait.
Et puis, bon, vous avez une lueur, une vocation religieuse à 15 ans. Et vous devenez moine à 20 ans.
Tout à fait. Moine bénédictin à l'abbaye d'Apierquivir, donc dans le Morvan, pendant 10 ans.
Et vous prenez le nom d'ailleurs de Marc.
Frère Marc.
De Frère Marc.
On me le donne.
On vous change de votre nom,
vous êtes rasé, il fait 15 degrés dans les cellules, moins 25 dehors. Pas de
une
viande,
vie
pas de
très
vin.
Austère.
Voilà, levé de 2 à 3 heures du matin, à 6 heures du matin, et les Teilim, disons 7 offices de Teilim, de psaume, toute la journée, en français.
Et donc,
j'apprends l'hébreu.
Et vous restez dans ce monastère jusqu'à 30 ans.
Jusqu'à 30 ans, exactement.
Et là, vous découvrez vos racines juives. Vous devenez d'ailleurs très religieux et vous faites des rencontres exceptionnelles.
Voilà. D'abord, je vais rencontrer une femme, je tombe amoureux d'elle. Elle est journaliste de France 2 et je tombe amoureux d'elle. Elle ne sait pas qu'elle est juive et on tombe amoureux et je quitte la vie monastique et je m'aperçois, je vais remonter son histoire et je m'aperçois en fait qu'elle est juive d'Alsace, descendue en Algérie, remontée en 62 comme beaucoup d'Alsaciens chassés par les Allemands en 1870 en fait. Donc des Ashkénazes contrariés.
Et vous-même, vous saviez que vous étiez juif ?
Non, je ne savais rien du tout de tout ça. Il y avait beaucoup d'habitudes en fait, qui étaient des habitudes juives en fait, dans la famille et dont je ne savais pas qu'elles étaient juives en réalité.
Notamment, donc, cette histoire extraordinaire de votre grand-mère.
Alors, c'est une histoire extraordinaire.
Qui vous envoie un cédra chaque année.
Voilà, tous les automnes.
Vous humez ce cédra et vous vous posez un tas de questions.
Alors, c'est ma grand-mère, mais en fait, tout le monde, y a beaucoup de Corses. Toute la Corse, en fait, envoie des cédras à l'automne.
Oui, c'est un
Noël.
Très bon producteur de cédras, d'ailleurs.
Donc, la Corse. Enfin, ma grand-mère, tous les automnes, nous envoyait un cédra pour Noël. Pour Noël.
Tout ça, plutôt,
donc,
si c'est l'automne.
C'est un cédra confit. Et ce cédra confit, les Corses avaient l'habitude de se l'offrir à l'automne. Et même quand j'étais au monastère, je recevais son fameux collier avec ces cédras qui sentent si bon, quoi. Et alors, donc, bon, à l'époque, moi, je pensais que c'était une habitude corse ou chrétienne, quoi. Mais en fait, et un jour, je suis remonté vers le judaïsme, j'ai fait teshuva. Et un jour, j'étais dans une synagogue et je me suis aperçu, je suis rentré dans une communauté juive orthodoxe avec le rabbin Raïm Arboun à Vaucresson. Et je me suis aperçu, en fait, qu'au moment où on agitait le loulav, on prenait un cédra et on le sentait, comme moi, quand j'étais petit, je sentais le cédra.
Pour
la soukot. Voilà.
Et là, vous étiez déjà. Dans la communauté juive.
J'étais déjà dans la communauté juive. En fait, j'ai fait un long parcours. À partir du moment où je suis sorti du monastère, j'ai écrit 5, 6 livres, en fait 13 livres exactement, où j'ai montré en fait que Jésus était un homme juif, était un rabbin, simplement un simple homme, un simple rabbin. Et allant en Israël, étant un spécialiste du judaïsme, du judéo-christianisme des premiers siècles, j'écris Jésus de Nazareth, juif de Galilée, Jésus le rabbin qui aimait les femmes, etc. Et petit à petit, il y a eu tout un tas d'événements qui font que d'abord, j'ai retrouvé les origines juives de ma femme. Deuxièmement, j'ai retrouvé tout en Corse. J'ai commencé à me demander, mais pourquoi ma grand-mère porte le nom de son... Ma mère porte le nom de ses grands-pères. Pourquoi on a des clés pendues, en fait, c'est les clés de quelle maison? Et pourquoi
tout
on a des
symboles,
cédras?
Vous essayez d'en chercher les origines.
Pourquoi les gâteaux
fait, oui.
Pourquoi les gâteaux qu'on a, les campaniles, en fait, qui sont soi-disant des gâteaux de Pâques, c'est aussi les gâteaux des fêtes de Pourim au Maroc. Donc, il n'y a aucune raison qu'on soit passé entre la Corse et le Maroc. Donc, j'ai commencé à fouiller en fait mon passé et je me suis demandé pourquoi je cherche le judaïsme et pourquoi je reviens finalement au judaïsme. Et petit à petit, depuis 7 ans, je suis dans une communauté juive avec des gens magnifiques, donc à Vaucresson, Fabrice, Madar, Gaston, Alexis, Cédric,
on
Laura leur
fait
Barry,
une grosse bise, hein,
oui,
voilà.
Absolument, les salue,
on les embrasse.
On les embrasse très fort. Mais
les Cohen aussi, voilà.
Mais vous découvrez que tout de même, à côté de votre grand-mère, il y a une synagogue aussi.
Alors, ce qui se passe, c'est que je découvre qu'en fait, au pied de chez moi, il y a la seule et unique synagogue juive, donc une synagogue en Corse, rue du Castagne, à Bastia. Et moi, de là-haut, sur les toits, je vois tous les toits, je vois le clocher de Saint-Jean, et en bas, la synagogue. Et en fait, ce lieu allumé le soir du Shabbat, c'est la synagogue. Et je découvre qu'on est dans la rue où il y a la seule synagogue de Corse. Et donc, il y a des gens qui sont arrivés là. Il y a 749 juifs qui sont arrivés là en 1915. Et en fait... le jour où je publie mon premier livre sur ma biographie qui s'appelle Des noces éternelles, un moine à la synagogue, il y a deux types qui viennent me voir et je me dis c'est la synagogue du Rabbi Meir au bord de la mer. La synagogue est au bord du Vieux-Port. Je découvre que par un ouvrier qui travaille chez mes parents, en fait c'est une ancienne banque génoise qui est devenue un appartement et qui est devenue la synagogue. Et je demande à mes parents et c'est Benny et Guy Sabak viennent me voir, ils m'envoient un SMS le jour de la Iloula du Rabbi Meir. Ils me disent, voilà, nous, on est les petits-fils du rabbin qui était on est né à Bastia en 1938 et on est les petits-fils du rabbin Toledano qui officie dans la synagogue de 1920 à 1970. Et nous venons du Maroc, de Tinglir, et nous sommes arrivés à Tibériade. À Tibériade, on a été chassés par les Turcs en 1915. On était à la Canée en Crète et ces 740 personnes sont arrivées à Ajaccio. Et d'Ajaccio, une partie va partir à Bastia, et c'est eux, dont l'un d'eux, le responsable religieux, le rabbin Meir Toledano, donc va devenir le ministre des Affaires religieuses du gouvernement Ben Gurion. C'est ainsi qu'il va mourir à ce poste-là, fidèle au poste. Et là, on organise toute une exposition à Bastia. Allez voir ça, qu'a organisé le centre Edmond Fleg de Marseille, Martine Yana, avec toute son équipe. Et là, on s'est croisés. Et le lendemain, le rabbin Arboud m'appelle et me dit « Martine, je vais te passer Martine Yana, que je ne connaissais pas. » Le lendemain où ces gens étaient venus me voir avec la Megillah d'Esther de leur grand-père, écrite à la main, marocaine, avec toutes leurs lettres. Et il me dit, le rabbin Arboun, le lendemain, me téléphone de Marseille. Il me dit, voilà, je vais te passer la patronne du centre Edmond Fleg. Elle voudrait contacter les Juifs de Corse. Et là, donc, c'était fou. Puis c'était le lundi, le mardi, elle me contacte à midi. Je dis, ils sont venus me voir hier soir. Et la preuve, c'est que la lettre que vous avez, qui est une lettre de l'Alliance, j'ai la même. Elle vient de l'Alliance. Et regardez, Ajaccio s'écrit avec deux sa mère. Elle me dit, mais comment vous savez ça? Et donc, je les ai mis en contact. Et à partir de ce moment-là, le contact s'est fait. Et le centre Edmond Monflegh a été mis en contact avec la communauté juive de Bastia. Et donc, et ses descendants qui sont partout dans le monde. Là, il a construit la moitié de Mexico. C'est le roi du real estate. La Nouvelle-Orléans. Un autre, il était ministre des Affaires religieuses de Ben-Gurion. Certains sont revenus en Israël. Et ils se sont fondus dans la population. Et c'est un exemple d'intégration en Corse. Et lundi soir, on avait l'inauguration avec Pierre Savelli, le maire de Bastia, qui a fait un discours très, très émouvant. Écoutez ça sur Memoria Hebraica. Hebraica.com.
Alors, ça s'écrit comment? Redites-nous.
Memoria,
parce que...
Memoriahebraica.com. Et là-dessus, vous allez sur didierlong.com et vous allez trouver ces éléments-là.
Ou didierlong.com, oui. Voilà. D'accord.
Alors... grâce à, tout ça, à toutes ces rencontres et à votre nouvelle identité juive, puisque vous devenez quand même...
Oui, je deviens...
quand même un peu le cours de l'histoire.
Exactement.
Et vous repartez donc à l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et c'est voilà.
Et là, je cherche, en fait, je me dis, mais pourquoi, en fait, c'est, vous savez, c'est... imaginez, vous êtes place Saint-Nicolas, à Bastia, c'est un peu du De Funès dans le texte.
Oui.
Quoi? Quoi? Jacob, il est juif. Jacob, il est juif. Je suis consterné. Tiens, Shimone, passe-moi le cédra. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tous les gens viennent me voir et disent, voilà, j'ai un nom. Donc, parce que je m'appelle Bueno.
Oui, parce que
Bueno,
vous avez fait un travail sur les patronymes.
J'ai essayé de comprendre comment les juifs étaient arrivés en Corse,
oui,
et pourquoi ils s'étaient fondus dans la population. Alors donc j'ai dû remonter sur toute l'histoire de l'Inquisition. Rappelez-vous, 1492, tout le monde quitte l'Espagne. Une grande partie passe au Portugal, en fait, dans la région d'Albuquerque. Et je me retrouve un peu dans la région d'Albuquerque.
Beaucoup de maranes, surtout.
Et donc ils vont devenir maranes, tous ces gens du Portugal. Ces gens qui restent en Espagne pendant 3 siècles, en fait, ils vont être poursuivis par l'Inquisition en Espagne et ensuite au Portugal.
Oui.
Ils quittent l'Espagne au compte-gouttes. Ils quittent le Portugal puisqu'ils étaient convertis de force en 1497 au Portugal. Et des gens comme mon arrière-grand-mère s'appelait Branca. Et Branca, c'est les Branco. C'est tous les gens de la région d'Albuquerque. C'est tout le travail qu'a fait Samuel Schwartz, que vous connaissez très certainement, qui, en 1915, qui découvre en fait à Belmonte, au Portugal, il découvre qu'il y a des juifs cachés. Quoi. Enfin, des gens qui ont des espèces d'habitudes, des maranes, c'est-à-dire qui sont des gens qui se pensent juifs, qui ont tout un tas d'habitudes, c'est-à-dire juive avec des fêtes, avec des jeûnes spéciaux, ils allument la bougie quand il y a un orage, etc., ce qu'on va retrouver en Corse. Et ces gens-là pratiquent en secret, ils allument les bougies, je ne peux pas donner les noms, mais il y a des gens qui, jusqu'il y a 20 ans, allumaient les bougies le vendredi soir en Corse, de manière secrète, dans une armoire.
Et chez vous, votre grand-mère, non,
elle donc, non, ma grand-mère, elle offrait les cédras, etc.
Oui.
Et les Branca, donc ces Branca, vont arriver au nord de Porto Vec, tout près de Porto Vec, dans un village qu'ils vont appeler Venchunio, c'est-à-dire Benchunio. C'est le B et le V, c'est la même lettre en Corse, et on est arrivé au bon endroit. Voilà. Et donc, c'est les Branco deviennent les Branca en Espagne et traversent et arrivent en Corse.
Alors, on retrouve, je m'excuse, Bella, retrouver Didier Long dans quelques instants, juste après la pause. Vous écoutez Aquí Estamos, la voix du judéo-espagnol sur Judaïque FM, en compagnie de Bella Lustig. Bella, notre invitée ce matin, Didier Long, qui nous présente à la fois son parcours et son livre « Mémoire juive de Corse » paru chez Le Mieux Éditeur.
Bien, donc je voudrais vous parler évidemment plus spécifiquement sur les judéo-espagnols, puisque nous parlions le castillan, qui était quand même la langue ancienne. Je crois que vous avez beaucoup voyagé, vous avez été en Turquie, vous êtes plongé dans le monde des séfaradim. Vous pouvez nous en parler et nous donner quelques précisions.
Alors, l'histoire en fait des séfaradim, contrairement à ce qu'on croit, c'est une histoire très complexe. Tous les gens, ils vous disent « je viens de Livourne ». Mais en fait... les gens qui viennent de Livourne, il faut savoir que Livourne est un tout petit port de pêcheurs jusqu'à la fin du 16e, jusqu'à la Livournaise. Pendant un siècle, de 1492 à 1596, on a un siècle en fait où Livourne n'est qu'un petit port de pêcheurs. Donc les gens qui viennent d'Espagne, ce que nous raconte Yosef Acohen dans sa vallée de larmes, ils arrivent non pas à Livourne, mais ils arrivent à Gênes. Ils arrivent sur le port de Gênes et pendant un siècle, ils vont être chassés en fait dans toute l'Italie vers les villages. Et c'est bien parce qu'ils rentrent dans les villages âge et qui se mélange aux populations chrétiennes, que l'Église demande qu'on fasse les ghettos en 1516, donc Venise, et ils vont rentrer dans ces ghettos. Et ils sont, pour une partie, et une bonne partie, essaient de fuir vers l'Empire ottoman, et vers l'Empire ottoman, Constantinople a été reprise donc, au XVe siècle, et ils vont se retrouver, pour une partie, donc à Salonique, une partie très importante, et une partie à Constantinople, donc dans le quartier de Balat. Ces gens-là vont parler le judéo-espagnol, mais beaucoup en fait vont rester en Italie, et on trouve dans tous les ghettos italiens, vous allez à Venise, partout, vous avez en fait trois scuola. On a la scuola dei tedeschi, donc les Allemands, des tedeschi, la scuola spagnola et la scuola levantina, donc les levantins. Donc, ces trois communautés cohabitent avec trois langues. Donc, l'un, l'espagnol, le judéo-espagnol. Et c'est pour ça que c'est très intéressant pour de voir que quelqu'un comme Christophe Colomb, qui est soi-disant né à Gênes et qui a fait ses études en Italie, ce qu'on sait, parle espagnol. Pourquoi il parle espagnol? Toute son œuvre en espagnol. Donc, il continuait de parler l'espagnol et ils apprenaient l'italien. Ils ont appris très vite. En Corse, ce qui s'est passé, ils ont très vite parlé le corse. Parce qu'en Corse, vous arriviez, vous parlez corse, qui est en fait une forme de vieux toscan. Vous parlez le corse ou vous mouriez. C'est très, très simple. Et ah ce là qui là, s'est passé oui. en Corse, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de rabbin. Il n'y avait pas de rabbin. Les rabbins, parce que quand les gens sont... Il faut comprendre à l'époque, la géopolitique de l'époque, ce qui fait que l'Espagne et les grandes îles, donc Madère, les Baléares, la Sardaigne, la Sicile, sont des îles sous domination aragonaise. Mais la Corse appartient à Gênes. Et c'est pour ça qu'ils ont filé vers Gênes. Donc, 1492, le rabbin Sanguinetti de Modène va se retrouver, qui est un Sicilien, donc on a son discours émouvant, il part, et il va se retrouver en Corse. Mais ces gens-là, eux, parlaient déjà italien. Une forme d'italien, une forme de
bien sûr.
Ok. Donc, une partie va aller en Turquie, et figurez-vous que tous ces gens de Turquie, une partie en fait va revenir en fait de Salonique à la fin du 19e siècle, des gens comme les Castoriano qui sont à Bastia, des grandes familles de Bastia. Donc, quand les Juifs de 1915 arrivent, il y a déjà tous les Levantins en fait qui sont en Corse et qui parlent le judéo-espagnol en Corse. Ok, donc ces gens, j'étais avant-hier soir au vernissage, il y avait Madame Castoriano, sa nièce, et elle me dit mais mes parents quand ils voulaient pas que je comprenne, ils parlaient judéo-espagnol, donc je comprends très bien le judéo-espagnol, je parle encore quelques bribes, et ces gens voilà ils sont intégrés, ils sont dans la population corse, et la Corse les accueillit comme des frères, parce que comme il y a eu toutes ces immigrations et que ces gens se sont intégrés en fait, qu'ils sont devenus et qu'ils ont changé l'âme corse, ils ont modifié l'âme corse. L'âme corse, c'est quelque chose de très proche, très très proche de l'âme juive. C'est ça qui m'a beaucoup impressionné.
Oui, il y a une osmose très rare quand même.
Quand moi je suis rentré dans ma synagogue, je me suis dit, la première fois que je suis rentré dans la synagogue, j'entendais le rabbin Arboun chanter, dont le grand-père était le Dayan de Marrakech, qui était un pur marocain. Je l'ai entendu chanter, j'ai dit, mais c'est le chant des bergers sur le couchon, ils chantent comme ça. Quand j'ai entendu le chauffard, c'est la corne qu'utilisent les bergers pour faire venir les troupeaux. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de...
C'est assez incroyable.
Donc l'âme corse est pétrie en fait, de symboles, de signes, et d'habitudes juives, de manières de se comporter, vous voyez. Et donc, les Corses, sans compter tous ceux qui sont... vous voyez, les Jacobi, les Simeoni, tout ça, c'est des patronymes juifs.
Tous ces noms que nous entendons, et on n'imagine pas du tout l'histoire qu'il y a derrière.
Voilà. Et donc, les Turcs se sont... Alors, les femmes turques, elles avaient des pâtisseries turques, elles fumaient la cigarette. Au début du XXe siècle, c'était à Bastia. Et elles jouaient, elles avaient des jeux spéciaux.
À la pastra ou des choses comme ça.
Voilà, des jeux de domino, des choses comme ça. C'est ce qu'on m'a raconté, moi. Ce qu'on m'a raconté, je ne les ai pas vus. Hein.
Oui. Et donc, vous êtes jeune.
Quand Guy et Benny Sabag sont arrivés, qui sont nés en 1938, qui sont de la communauté de Bastia, qui sont les petits-fils du rabbin Toledano, grâce à qui, en fait, on a réussi à mettre en contact, en fait, les Juifs de Corse avec le centre Edmond Fleck de Marseille, parce qu'eux m'ont permis d'assurer le lien entre les deux. Parce que vous comprenez, tout ce monde-là, voilà. Eh bien, tous ces gens-là, en fait, le rabbin Toledano était le rabbin de la synagogue de Bastia, ou la seule synagogue de Corse, au pied de chez ma grand-mère, de 1920 à 1970. Donc tout ce monde s'est mélangé.
Il y a quand même des juifs.
Il y a plein de juifs en Corse. Oui. Sauf que c'est des gens qui sont pas forcément des grands pratiquants, qui sont des juifs de Kippour et qui sont mêlés à la population. Sans compter tous les juifs d'aujourd'hui qui font leur allié en Corse en disant j'invite plein de gens, tous les juifs qui veulent venir à Bastia, vous êtes les bienvenus, on va remonter la communauté. Il y a le Rav Lévi Pinson qui est à Ajaccio, donc le Beth Chabad qui est venu, et donc on a remonté la communauté. Et on a fait un grand Shabbat plein le Shabbat dernier, donc au début du mois d'Eloul, ce qui était le Teshuvah, quoi, le retour. Voilà. Et donc c'est une aventure spirituelle, quoi, autant qu'historique.
Mais c'est quand même le seul département français vraiment qui n'a pas une dénonciation du tout. Ils ont fait corps avec tous les juifs.
Oui, là, on parle de la Seconde Guerre mondiale.
Je parle de la Deuxième.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Corses n'ont pas donné les juifs. Il faut savoir qu'on parle de Cisco, mais il faut savoir que les gens de Cisco ont hébergé les juifs, ont protégé les juifs. Et il faudrait demander à Guy Benissabat, qui savent parfaitement ça, c'est leur histoire familiale, et je ne veux pas la dévoiler, allez leur demander. Demandez à Guy et Benny Sabag où est enterrée leur petite sœur. Et ils vous diront. J'ai pas à dévoiler les histoires des gens. Mais sachez que les Corses ne sont pas racistes, que les Corses nous ont accueillis depuis un millénaire. Il faut savoir que...
Est-ce qu'ils ont été déclarés justes?
Non, parce que le problème, c'est que cette histoire, c'est qu'on ne peut pas déclarer juste une île. Un territoire ne peut pas être déclaré juste. On déclare juste des gens. Un tzadik, c'est une personne.
Mais il y avait des lois, peut-être. Il y avait des lois anti-juives.
Il y avait les lois anti-juives, sauf que le préfet, il n'a pas obéi. Oui. Et il n'a pas obéi parce qu'il était suivi par une grande partie de la population corse. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu quelques racistes et qu'il n'y avait pas un parti pétiniste, comme partout. Sauf que là, aucun juif n'a été déporté. Il y a juste un moment où il n'était pas là, où un pauvre juif a été déporté et s'est retrouvé à Auschwitz. Mais c'était le seul de Corse. Et ça, c'était très bien analysé donc, par André Campane dans La Corse, l'île des justes, point d'interrogation. Donc, invitez André Campane. Il vient de faire tout un documentaire, non seulement le documentaire qu'il a fait, mais il a complété tout son documentaire avec tout un tas d'interviews. Campane, il n'est pas juif, il est corse. Et c'est lui qui a trouvé que la Corse était l'île des justes avec un professeur des écoles donc, et des enfants qui ont travaillé donc de Bastia, c'est fantastique.
Bien sûr.
Dans toute
bien
son
sûr.
Histoire d'ailleurs avec le peuple juif, il y a une espèce de...
Oui.
De parenté. C'est les Corses qui ont fourni les armes pour la Haganah au moment de la constitution de l'État d'Israël. Une partie des armes a été amenée par les Corses. Je raconte tout ça dans mon livre, donc Mémoire juive de Corse, lisez ça et vous allez voir.
C'est absolument passionnant à lire vraiment.
Paoli, au XVIIIe siècle, a voulu faire de la Corse une marketplace, une place de marché, et il a fait venir les Juifs de Livourne. Le roi Théodore, même chose, parce qu'il travaillait en fait à Livourne. Ils ont vécu longtemps avec Livourne, tous les révolutionnaires. Corse était à Livourne, donc Paoli, le père de la nation corse. Quoi.
Et alors, aujourd'hui, vous habitez où?
Alors, aujourd'hui, j'habite Paris.
D'accord. Okay.
Et je vis en Corse l'été. Voilà. Et je retourne souvent en Corse.
Et vous êtes Corse, vous restez
je voudrais
Corse de cœur.
Juste corse une juif. Phrase qui m'a quand même touché énormément quand vous dites « Et moi, fils de la Corse, je témoigne que l'âme juive qui vit dans la mémoire corse et en moi est immortelle. »
Amen. Amen.
Je trouve ça extraordinaire.
C'est magnifique. Hein.
C'est superbe. Ouais. Merci. Vous avez beaucoup de projets. Je sais qu'il y a une exposition également.
Alors, il y a l'exposition à Bastia,
au
péristyle du théâtre de Bastia. Allez voir ça. Elle dure jusqu'au 25 septembre. On l'a inaugurée lundi, donc le 3 Eloul, lundi
et
dernier.
Et ensuite, elle sera à Marseille.
Et ensuite, elle va aller à Marseille parce que Jean Dalcoletto et les associations corses de Marseille ont accueilli l'exposition alors qu'on n'a jamais eu de place au Conseil Général. L'exposition devait au départ avoir lieu au Conseil Général. Et elle a commencé à Bastia et elle va continuer à Marseille, donc avec des gens qui sont des chrétiens d'une confrérie.
Donc
etc.
plongez-vous dans ce livre, vraiment, une fois que vous y êtes plongé, vous ne le quittez plus. C'est notre histoire, vous allez retrouver des noms qui vous sont très connus autour de vous et vous allez découvrir tout ce qu'il y a derrière. Voilà, bon, enfin moi j'ai été séduite, je vous l'ai
On
dit.
On le sent, quel enthousiasme, bravo.
Merci
alors,
à tous.
Alors Didier Lombella, merci pour cette émission tout à fait passionnante. Il nous reste très peu de temps, on va écouter un court extrait de
Los Bilbilicos, okay. Par Yoram Gaon qui a une voix tellement merveilleuse.
Voilà, grosse bise, on se retrouve le mois prochain.
Con mucho placer.
Piatti.
Los bilbilicos cantan, sospiran del amor. Los bilbilicos cantan, sospiran del amor. Y la pasión me mata, muchísimo. Mi dolor. me mata, mucido a mi dolor. Los bilbilicos cantan en el árbol de la flor, los bilbilicos cantan en el árbol de la flor, debajo se asentan los que sufren del amor, debajo se asentan los que sufren del amor, los que sufren del amor.
Judaïque FM partout en France et dans le monde, c'est sur le www.judaïquefm.com.